Les conférences du Collège de France.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous allons commencer. Merci à vous d'être venus ce soir. Et nous avons le plaisir avec le professeur Tarascon d'ouvrir donc cette ultime table ronde, dernier échange pour le cycle Le Futur en Héritage. La semaine dernière, donc, nous avons traité de la question de l'adaptation des écosystèmes aux conséquences du changement climatique. Et aujourd'hui, nous restons sur un thème relativement lié, puisque nous allons parler de des biotechnologies pour la dépollution et la restauration des écosystèmes, avec notamment Madame Claude Grison, qui nous fait le plaisir d'être là aussi ce soir. D'ailleurs, le choix de Madame Grison est loin d'être anodin ou du moins désintéressé, puisqu'elle nous fait aussi l'honneur cette année, 2025-2026, d'être la titulaire de la chaire Avenir commun durable, qui commencera donc avec la leçon inaugurale le 12 mars prochain. Et le titre de cette leçon inaugurale sera « Transition écologique, l'espoir des sciences de la durabilité ». Avant de lancer officiellement cette dernière table ronde, je souhaitais remercier de nouveau tous les jeunes impliqués dans la co-organisation, pour le dire simplement, l'organisation de cet événement-là, donc l'équipe d'Alma Mater, dont les représentants aujourd'hui sont Jules et Henri, qui introduiront le sujet, notre intervenante, et présenteront aussi les grands concepts derrière les discussions qui vont suivre. Donc merci à vous, et c'est important pour nous puisqu'effectivement le Collège de France, de manière de plus en plus affirmée, cherche à aller vers de nouveaux publics, c'est-à-dire les étudiants du supérieur et les élèves de lycée, et donc j'espère que cette collaboration fructueuse pourra continuer dans le futur. Merci.
Alors, mesdames, messieurs, bonsoir. Donc aujourd'hui, nous sommes très heureux de pouvoir présenter cette dernière conférence sur le climat, donc un cycle qui nous porte énormément en tout cas d'intérêt. Et donc nous allons entamer ce soir un sujet qui n'est pas des moindres, qui traite des biotechnologies. Et ces biotechnologies qui sont utilisées pour dépolluer et pour restaurer les écosystèmes de nos jours. Je vais au début vous faire une courte présentation, comme je commence à avoir l'habitude de faire, en commençant directement par vous remettre en contexte avec les différents polluants qui existent actuellement dans l'environnement. Hop, ici, ça a bien marché. Alors, pour commencer, vous savez très bien qu'il existe beaucoup de polluants dans l'environnement. Il existe notamment les métaux lourds que vous connaissez sûrement par les scandales récents entre le cadmium, le mercure, l'arsenic, il en existe des tas d'autres. Et ces métaux lourds représentent des chiffres qui sont assez vertigineux, puisqu'on estime que entre 14 et 17% des terres agricoles mondiales sont touchées par la pollution de ces métaux toxiques. Et on estime que 0,9 à 1,4 milliard de personnes vivent dans des régions où, où les risques pour la santé publique sont accrus en raison de ces métaux. En Europe, la situation n'est pas non plus négligeable, puisque, comme vous pouvez le voir ici, 6,24% des terres agricoles sont touchées par ces métaux lourds, ce qui fait une surface d'à peu près un quart de la surface de l'équivalent de surface de la France. Voilà. Il n'y a pas que ça, il y a aussi également les plastiques et hydrocarbures. Chaque heure plutôt, 1000 tonnes de plastique atteignent les océans. Et tout cela crée une pollution assez conséquente dans l'environnement, sans compter notamment les marées noires qui polluent davantage dans les océans. Par ailleurs, il y a aussi des polluants qui sont plus liés à l'agriculture. Alors, je parlais des métaux lourds, mais il y a aussi les produits phytosanitaires. Il y a notamment le PCB ou les dioxines, donc PCB pour polychlorobiphényl. Ce sont des gaz émis qui après se déposent sur les plantes et qui viennent polluer aussi les sols, donc pas que les plantes, les sols. Voilà. Donc c'est à peu près l'ampleur de toutes ces pollutions. Vous avez ici des méthodes qui sont utilisées pour traiter ces pollutions. Donc on en a de nombreuses. Donc dans cette étude, j'ai pu résumer en tout cas avec ce petit tableau qui était donc vous avez la méthode notamment de compostage qui sont des méthodes qui sont très longues, vous avez aussi des méthodes de pyrolyse donc qui sont très énergivores, de gazéification également très énergivore, tout ça est assez rapide mais donc consomme beaucoup d'énergie, combustion naturellement, vous en doutez, est très énergivore ainsi que le cendrage. Donc, tous ces problèmes, il faut trouver des nouveaux moyens qui consomment moins d'énergie. Et c'est là qu'arrive donc la phytorémédiation. Alors la phytoremédiation, vous pouvez voir par rapport aux autres méthodes que j'ai pu mettre ici, donc le confinement vous connaissez, qui met la terre à part pour que ça se dépollue au fur et à mesure des années, que je n'ai pas traité juste avant. La stabilisation qui est une stabilisation chimique, donc on va directement appliquer des produits dans les sols pour pouvoir dépolluer, qui peuvent avoir en tout cas des conséquences dramatiques après. La phytoremédiation donc est plutôt faible en termes de coût, elle est pour le coup assez lente, puisqu'il s'agit de faire pousser des plantes. Et la destruction de l'écosystème est donc minimale, puisque nous faisons pousser des plantes, mais je vais revenir sur une petite conséquence qu'il peut y avoir après, puisqu'il s'agit à la fois de plantes invasives. Et c'est une efficacité qui est donc variable, puisque ça dépend évidemment des sols, en fonction des pH, en fonction de l'humidité et des plantes qui sont donc utilisées. Et toutes les plantes ne sont pas spécialistes des mêmes métaux. Vous pouvez vous rendre compte ici, donc je me tourne plus vers tout ce qui est métaux, puisque ce soir nous discuterons principalement de la dépollution des métaux lourds dans le sol. Donc ici, vous pouvez voir, petit émoji qui n'est pas apparu, trois grandes approches qu'on peut caractériser un peu, qui sont donc la phytorémédiation, qui est l'utilisation donc de ces plantes. Il y a aussi les micro-organismes, puisque nous allons utiliser aussi tout ce qui est bactéries, champignons, micro-algues, et enfin les systèmes hybrides qui peuvent mélanger donc des plantes avec des champignons, aussi bien que des plantes avec d'autres produits, qui sont notamment... des produits phytosanitaires, etc. Donc, pour commencer, vous avez donc la phytorémédiation. Alors, la phytorémédiation, je me suis juste perdu non, mais papier, puisque je fuis. Alors, vous pouvez voir ici les différentes étapes, donc avec les métaux lourds qui sont collectés. HM signifie heavy metal en anglais, donc les métaux lourds, qui donc entre dans la rhizosphère, donc tout ce qui concerne les racines, qui sont ensuite redirigées au fur et à mesure dans les plantes et enfin dans la plante et qui finissent dans tout le reste donc, de la plante. Voilà. Ça, c'est ce qui concerne la phytorémédiation. Vous avez ici un exemple de plante et je fais c'est un petit clin d'œil à notre invité de ce soir puisqu'il s'agit du tabouret bleu, qui est une plante qui a été utilisée dans le sud de la France, notamment pour la dépollution de certains métaux. Nous y reviendrons. Et voilà, donc ça c'est ce qui est pour de la phytorémédiation. Je vais vous faire un petit point assez rapidement sur les alliés invisibles. Donc vous avez les bactéries, les micro-algues également, et les champignons, donc comme ces champignons mycorhiziens arbusculaires. Ces bactéries rhizophiques, elles facilitent l'absorption. En fait, vous pouvez voir ici par rapport à ce schéma que quand nous avons des bactéries donc, qui sont présentes, il y a une absorption qui est plus simple avec des métaux lourds donc, dans la plante, contrairement à ce quand il n'y a pas. Vous avez aussi donc, les micro-algues qui permettent aussi la biodégradation en milieu aquatique, mais ça, ce n'est pas nouveau par rapport à ces pollutions. Voilà, je vais essayer de passer assez rapidement pour que nous puissions passer aux interventions. Et vous avez les systèmes hybrides, donc ça c'est une espèce à part, un peu dans le troisième flèche que j'avais désigné. Vous avez donc la phytorémédiation assistée par champignons mycorhiziens, donc c'est-à-dire c'est ce que j'ai dit juste avant, par rapport aux AMF, donc les champignons mycorhiziens arbusculaires, qui forment une symbiose avec supérieure à 80% des plantes. Il y a multiplication donc, par 100 de la surface d'exploration du sol. Vous avez aussi une action double, donc de direct de filtrage, mais également indirect de tolérance de la plante. Vous avez également la phytorémédiation assistée par des bactéries, promotion donc de la croissance, modification de la biodisponibilité des métaux et amélioration de la tolérance au stress. Vous avez également les plantes et amendements, les amendements donc qui sont des mélanges donc qui sont effectués donc dans le sol notamment, et tout ça, ça apporte donc ce qui est biochar, compost, agent chélateur, et ensuite optimisation du pH et de la structure. Vous allez avoir tout ça donc pour améliorer les capacités de la plante à absorber ces métaux. Donc ici, nous allons traiter assez rapidement donc l'éco-catalyse. Alors, la catalyse, vous savez, je pense, pour certains ce que c'est, puisqu'il s'agit d'une espèce qu'on va introduire dans une solution qui va permettre d'accélérer la réaction, et c'est une espèce qui est reformée à la fin de la réaction. Alors, vous avez ici, pour cette éco-catalyse, quelque chose qui sera davantage expliqué après, un petit schéma donc, qui est extrait donc, de... de Société chimique de France, de phytotechnologie remédiatrice et chimie verte. Donc, pour commencer, vous avez par exemple ici transfert industriel de l'éco-catalyse qui va ensuite donner la valorisation, réhabilitation socio-économique. Puis vous avez la phyto-extraction sur le site, transformation de la biomasse en éco-catalyseur et enfin synthèse organique par éco-catalyse. Et tout ça forme un cercle donc qui est plutôt d'une sorte d'économie circulaire. Voilà. Ensuite, vous avez un concept très important à appliquer là-dessus, puisque vous savez que la chimie a une très mauvaise image depuis des générations. C'est pour ça que la chimie verte est un domaine dans lequel il y a de plus en plus de recherches, qui est donc cette conception de produits et de procédés chimiques qui minimise donc cet impact environnemental et donc pour céder avec, enfin, de casser les traditions classiques de la chimie qui pollue. Voilà. Donc, nous avons dans cette conférence des limites et des défis qui sont bien sûr à porter. Vous avez la liste ici en termes de temps, d'échelle, de biodiversité et de technique et d'économie, puisqu'il faut trouver tout de suite bien sûr une question de rentabilité, puisque si on traite des hectares et des hectares et que ça coûte des millions, on ne peut pas. Et puis savoir aussi avec les plantes si elles sont invasives ou non. Et cela peut poser aussi des problèmes. Et donc nous avons ces questions ouvertes auxquelles nous pourrons nous amener, en tout cas, être amenés ici à répondre. C'est est-ce que c'est une solution unique? Donc la phytoremédiation, est-ce que c'est un outil complémentaire? Est-ce que c'est biotechnologie? Puis je vais plutôt basculer sur biotechnologie. Est-ce que c'est biotechnologie aussi? Est-ce qu'elles ont un cadre réglementaire pour accompagner? Donc est-ce qu'il y a un cadre réglementaire, en tout cas, pour accompagner cette innovation? Et également, comment est-ce qu'on peut arbitrer entre l'efficacité, sa durabilité et son coût? Voilà. C'est ce dont, c'est ce à propos de quoi nous allons discuter et parler ce soir. Je laisse maintenant Jules faire la petite présentation de notre invité, puis nous irons nous asseoir.
Pour vous représenter un peu l'invité qui a déjà été précédemment partiellement présenté par Benjamin, Madame Claude Grison, vous êtes directrice de recherche au CNRS au sein du laboratoire de chimie bio-inspirée d'innovation écologique de l'Université de Montpellier. Vous êtes également membre de l'Académie des sciences depuis janvier 2025 et également plein d'autres choses, et vous avez reçu plein d'autres prix, mais j'espère que vous ne m'en voudrez pas de raccourcir pour qu'on passe au plus vite dans ce sujet qui s'annonce passionnant, très complexe et très complet. Nous allons nous focaliser que sur une seule partie. Et la seule question, habituellement j'ai une problématique un peu plus longue, mais le sujet étant tellement complexe, la seule question ça sera comment? Comment faire pour, avec ces biotechnologies, pouvoir soigner ce sol? On va y répondre tout au long de cette séance. Et nous allons pouvoir aller nous installer pour commencer à poser nos questions. Et donc, j'ai la chance d'ouvrir le bal avec une question qui, je pense, est nécessaire pour définir tout d'abord ce qu'on cherche à dépolluer. Quelles sont, selon vous, les molécules qui ont le plus grand pouvoir polluant? Sont-elles les plus médiatisées, comme les métaux lourds? Ou y a-t-il des polluants moins connus, mais tout aussi dangereux?
Alors, vaste question, par définition, un polluant pose un problème de toxicité, d'écotoxicité. Donc, je ne vais pas faire une classification des dangers, mais parmi les différents polluants auxquels on est exposé, les plus redoutables sont évidemment ceux qui sont persistants. Alors, les métaux lourds sont l'exemple typique, c'est-à-dire que si on n'intervient pas, ils resteront là indéfiniment. Certains polluants organiques, que la nature ne connaît pas parce qu'ils sont complètement synthétiques, posent aussi problème. Ça a été l'exemple très médiatisé des PFAS assez récemment. Donc, ils sont tellement stables que leur dégradation est infiniment lente. Puis, il y en a d'autres qui sont peut-être un peu plus vulnérables, qui vont être dégradés partiellement en des métabolites qui sont eux-mêmes problématiques. Donc, j'ai envie de dire, tout agent polluant est un problème en soi.
Très bien. Et justement, concernant ces PFAS, est-ce qu'il existe déjà des plantes qui sont en capacité de les absorber ou est-ce que c'est encore quelque chose de très technique? On connaît leur structure extrêmement dure, en tout cas, dans le sens...
Alors, c'est un exemple typique de molécules organiques polluantes, donc molécules de synthèse effectivement très stables, que les micro-organismes ne connaissent pas, puisqu'ils n'existent pas dans la nature. Les techniques de dépollution qui sont peut-être les plus avancées, qui sont les plus faciles à mettre en œuvre, ne vont pas consister à dépolluer un sol, où c'est bien compliqué. En revanche, dépolluer l'eau avec des matériaux d'origine végétale, ça c'est quelque chose qu'on arrive à faire assez rapidement. Mais se pose très vite le problème du devenir des plantes, parfois mortes, sous forme de poudre, qui ont biosorbé ces polluants, que faire de ces poudres végétales, par exemple, qui vont biosorber les polluants? Est-ce qu'on n'est pas en train de transférer le problème vers d'autres types de déchets?
Très bien. Et donc, vous traitez, de vos recherches en tout cas, de cette récolte de ces métaux lourds, et ensuite vous les faites sécher, et ensuite vous les broyez, et vous arrivez à récupérer une sorte de poudre. Et que faites-vous de cette poudre pour pouvoir réussir à séparer finalement les métaux lourds du reste organique?
Alors, dans le cas des sols, puisque c'est le sujet qui vous intéresse le plus ce soir, en fait, déjà, on travaille avec des plantes qui sont des plantes qui répondent à votre schéma de phytoextraction, mais il faut le savoir en première étape. Quand vous présentez les phytoremédiations, ce qu'il faut voir, c'est que ce n'est pas une fin en soi. L'objectif global, ultime, c'est de restaurer les sols qui sont pollués et très dégradés. C'est de la restauration écologique, avec une définition, hein, c'est très cadré, dont l'objectif ultime, c'est vraiment de restaurer l'écosystème tel qu'il était avant, donc activité humaine et avant dégradation. Donc, parmi les plantes qu'on installe en première étape, il y a beaucoup de plantes qui font effectivement de la phytoextraction. Ce sont des plantes pionnières, grégaires, très résistantes et qui ont des capacités de tolérance très élevées vis-à-vis de la pollution, notamment la pollution métallique, et qui ont cette propriété donc assez extraordinaire de faire mieux que tolérer la pollution, c'est de l'extraire et de transporter ces polluants métalliques dans les feuilles comme pour les mettre bien à l'abri. Et les plantes qui se sont adaptées à ces contextes vont concentrer des quantités astronomiques d'éléments, alors j'ai plutôt envie de dire le terme chimique approprié, d'éléments métalliques de transition. C'est du zinc, c'est du manganèse, c'est du nickel pour les plantes les plus douées qui arrivent à les stocker en haute concentration. Donc ce sont des éléments métalliques en fait qui sont très utiles, notamment en chimie, en catalyse chimique. On ne sait pas s'en passer. Et pourtant, le zinc notamment fait partie des ressources minérales qui pourraient être en voie d'épuisement au niveau mondial assez rapidement. L'état des ressources donc identifiées est assez faible et assez problématique. Donc l'idée, ça a été de voir ces plantes qui accumulent ces métaux comme des réservoirs possibles d'éléments métalliques pour la catalyse chimique. Donc comment faire? Alors pour nous, l'idée, c'était donc d'aider ces plantes à se développer sur ces sols très dégradés, et puis de récupérer eh bien, les feuilles qui sont les plus chargées en éléments métalliques de transition, zinc, nickel, manganèse. Et on s'est rendu compte que c'était les feuilles les plus âgées, voire les feuilles mortes. Donc on récolte assez massivement donc ces feuilles âgées ou mortes, très chargées en éléments métalliques, et on se retrouve avec par exemple du zinc ou du manganèse, mais pas que. Également les éléments minéraux qu'a toute plante. Si une plante a des feuilles vertes, elle fait de la chlorophylle, et qui dit de la chlorophylle dit aussi, par exemple, du magnésium. Et on va se retrouver avec ce mélange d'espèces minérales naturelles et l'élément de transition phyto-extrait par la plante. Donc, au départ de ce travail, la grosse question était, doit-on faire du zinc pur, du manganèse pur, du nickel pur? Comme on le fait quand on va extraire un minerai, par exemple, de nickel, on va le traiter jusqu'à avoir du nickel pur. Au départ, le pari qui était un petit peu osé consistait à dire, mais si la plante met à notre disposition des éléments minéraux, et puis cet élément de transition phyto-extrait, est-ce qu'il ne faudrait pas conserver l'intégralité de ce que nous donne la plante? Parce qu'elle nous livre au bon degré d'oxydation pour la catalyse chimique, sous la bonne forme. Et puis, on n'avait pas envie de reproduire les erreurs de la métallurgie, hein, qui a un impact environnemental très lourd, autant que l'extraction du minerai. Et donc, on a décidé de tout garder. Et aujourd'hui, donc, le traitement de ces plantes qui concentrent les éléments de transition est très simple. Effectivement, un traitement thermique assez modeste, on pourrait quasiment le faire dans un four de cuisine, hein, pour donner un ordre de grandeur, eh bien, favorise l'auto-assemblage du métal de transition que la plante a extrait du sol, et des éléments minéraux physiologiques de la plante. Et ça nous a mis entre les mains, finalement, des catalyseurs complètement nouveaux, aux structures complètement inédites, qui n'étaient pas connues dans le monde de la chimie classique, et dont on a découvert un potentiel assez extraordinaire. Donc on a entre les mains ces poudres végétales, qui sont des assemblages de l'élément extrait du sol et des éléments minéraux de la plante, qui sont des outils extrêmement performants pour construire des molécules d'intérêt à haute valeur ajoutée.
Et alors, justement, vous nous parlez de ces conditions définies.
Merci.
Pour considérer qu'une zone est dépolluée. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu, oui, cette définition? Et surtout, par ces catalyseurs que vous récupérez par par la récolte de ces feuilles et cette combustion. Est-ce que vous réussissez à financer, tout du moins au moins partiellement, cette dépollution de sites?
Alors, il y a deux questions dans ce que vous me demandez. Première question, attention, j'ai essayé de l'expliquer un petit peu. On n'a pas la prétention de dépolluer un sol. En tous les cas, on ne l'envisage pas au premier degré sous cette forme-là. On essaie vraiment de restaurer un site qui est très pollué, sur lequel aucune végétation classique ne peut se développer. Donc, la première étape, c'est vraiment ça, c'est restaurer l'écosystème dégradé. On commence par la phytoextraction. Mais bien sûr, ça n'est pas l'objectif ultime. Quand on a installé ces plantes qui extraient les métaux, eh bien, en deuxième étape, on installe ce qu'on appelle des légumineuses. Donc, on connaît bien le fonctionnement. Vous connaissez tous ces petits pois, exemple de légumineuses, qui ont une propriété assez extraordinaire de transformer l'azote qui est dans l'air en engrais azoté. Elles le font naturellement. Et donc, elles vont favoriser, eh bien, le développement d'une végétation plus conventionnelle, plus classique, quand on aura réussi à installer ces légumineuses. Donc on va tout doucement vers la réinstallation de l'écosystème initial. Voilà, donc on n'est pas dans un schéma qui est un petit peu naïf, hein, de dépollution. On est vraiment là pour faire de la restauration de ce sol. Alors bien sûr, la pollution va diminuer en termes de concentration grâce aux premières plantes installées qui font de la phytoextraction. Mais voilà, on n'a pas comme objectif essentiel de dépolluer. On est là pour restaurer, ce qui est déjà énorme. Parce que réinstaller des plantes de façon durable sur ces sols, c'est confiner la poussière métallique des sols, éviter l'envol des nanoparticules métalliques vers les habitations voisines, c'est très important, et limiter aussi l'érosion des sols à chaque fois qu'il pleut, parce qu'il n'y a plus de végétation, le sol est emporté, les sédiments pollués avec, et on va contaminer après les systèmes aquatiques qui vont transporter la pollution bien loin. Donc on est vraiment dans un schéma de restauration. Et du coup, j'ai oublié la deuxième question. Ah oui, ça me revient. Donc, quel est le développement économique de tout ça? Eh bien, effectivement, quand on développe ces technologies de restauration écologique de sols pollués, la technique fonctionne. Il faut être un petit peu patient, c'est ce que vous avez évoqué, parce qu'il faut laisser la nature reprendre ses droits. Les sols sont très dégradés, donc c'est quand même une forte contrainte pour les espèces qu'on installe, même si elles tolèrent la pollution, c'est quand même bien difficile. Mais ce sont des technologies qui ne sont pas très coûteuses, en tous les cas bien moins que l'excavation des terres ou le confinement. Mais si on est un petit peu patient, on arrive vraiment à restaurer ces écosystèmes. Et puis le pari, effectivement, c'était pour aller jusqu'à la restauration totale des écosystèmes, eh bien, c'est apporter donc une valorisation économique de ces solutions écologiques, parce que restaurer un écosystème, ben, en fait, ça coûte de l'argent. Et comment trouver les fonds nécessaires pour aller jusqu'au terme des objectifs de restauration. Et c'est là où, eh bien, la récolte de ces feuillagers, de ces litières végétales qui sont gorgées de métaux, sont extrêmement intéressantes, puisqu'elles sont très valorisables en chimie. Et aujourd'hui, bah, ces plantes qui permettent de restaurer ces écosystèmes nous ont permis tout simplement de revisiter tous les grands mécanismes de la chimie et de faire tout un lot de molécules d'intérêt, que ce soit un usage médical pour la santé. On a beaucoup travaillé initialement sur ces objectifs. Repenser la construction de médicaments, en baissant les coûts d'ailleurs de production de ces médicaments. Puis des molécules plus communes dans le domaine de la parapharmacie, ou faire des matériaux qui sont indispensables, donc par exemple des plastiques biodégradables. Donc on a revisité la possibilité de produire des tas de molécules utiles dans la vie de tous les jours, avec le pari que la chimie apporterait un soutien économique aux solutions écologiques initiales.
Très bien. Justement, je vais vous poser une petite question maintenant. Par rapport aux certains métaux qui deviennent justement des terres rares, vous évoquiez juste avant le zinc, est-ce qu'il serait possible d'imaginer une sorte de phytominage avec le cobalt ou avec des métaux qui deviennent justement rares par rapport aux technologies et choses comme ça?
Oui. Alors, par exemple, dans le cas du cobalt, on a un petit peu travaillé dessus avec des collègues du nord de la France et belges qui avaient qui effectuaient des recherches en République démocratique du Congo, puisqu'il y a une grosse activité d'extraction du cobalt et du cuivre. Finalement, on a été assez déçus devant les plantes qui accumulaient le cobalt, parce que les taux d'accumulation sont assez faibles, et en mélange avec le cuivre, ce qui est un petit peu compliqué à gérer. C'est très utile en restauration de ces milieux, mais difficilement valorisable. En revanche, avec des plantes aquatiques sur lesquelles on pourra revenir, eh bien, si on utilise leur système racinaire sous forme de poudre végétale, on est capable d'aller chercher, c'est plus dans le sol, mais dans l'eau, quasiment tous les éléments chimiques du tableau périodique. Et là, le cobalt devient possible, le cuivre aussi, des métaux stratégiques comme le palladium, le platine, le rhodium et des terres rares. Là, le potentiel est quasiment infini.
Et ces plantes, est-ce qu'elles ne sont pas un peu invasives? Parce que je sais que vous évoquiez la renouée du Japon, c'est un poids par rapport à ces...
Effectivement, c'est très très différent du sol. Le sol, donc les plantes qu'on a évoquées tout à l'heure dans la phytoextraction, sont des plantes qui se sont adaptées localement. En revanche, on a beaucoup étudié le milieu aquatique qui plante de plein fouet donc cette pollution des sols. Et on s'est rendu compte que certaines plantes aquatiques envahissantes avaient un système racinaire très particulier. Et c'est là où c'est intéressant d'être chimiste et de faire l'écologie, parce qu'on a trouvé une explication sur la structure chimique qu'il y avait à la surface de ces racines de plantes aquatiques exotiques envahissantes. On a compris pourquoi elles survivaient, elles se multipliaient aussi facilement par rapport à d'autres. Elles avaient un système racinaire très bien fait, un peu comme des antennes moléculaires qui vont capter avec une très forte efficacité tous les nutriments qu'il leur faut pour vivre dans l'eau, ce qui n'est pas facile pour une plante, surtout si elle flotte. C'est un vrai défi de se nourrir. Eh bien, on a vu qu'elle pouvait capter des éléments nutritifs avec beaucoup d'efficacité. Et si elle rencontrait des éléments polluants, elles ne vont pas forcément faire la différence avec un élément nutritif. Elles vont le capter aussi, et à des concentrations très élevées. Et comme tout se passe à l'échelle de la molécule, donc c'est tout petit, c'est à l'échelle du nanomètre, eh bien, si on récolte ces plantes aquatiques envahissantes, qu'on les transforme à l'état de poudre, pour qu'elles deviennent inoffensives et plus dangereuses, eh bien, la poudre végétale va garder ses capacités, cette affinité pour les éléments métalliques et, par exemple, capter avec énormément d'efficacité le cobalt, par exemple.
Mais alors, vous nous parlez d'une méthode qui, quand même, semble avoir énormément d'avantages. Quelle est aujourd'hui l'étendue de son utilisation?
Oui.
Et, effectivement, est-ce que c'est difficile à mettre en place, notamment en fonction du nombre de cycles de culture, de ce qui serait nécessaire et des...
Alors,
changement de gouvernance possible. Bah,
même pas. En fait, le schéma est très simple, puisque là, on a affaire à des plantes aquatiques exotiques envahissantes. C'est malheureusement un des 5 facteurs clés responsables de l'effondrement de la biodiversité, parce que ce sont des plantes qui se sont très bien acclimatées donc à nos milieux, et le réchauffement climatique les aide beaucoup, parce qu'en général, elles n'ont rien à faire ici. Elles viennent de milieux tropicaux, et elles retrouvent un climat qui leur plaît beaucoup. Elles sont hyper dynamiques, et donc elles sont très abondantes dans la nature. Donc, un de nos défis actuels, c'est de mettre en place des outils à grande échelle de récolte les plus massives possibles de ces plantes aquatiques envahissantes. Donc, on n'a même pas à les cultiver. J'ai envie de dire, malheureusement, elles se sont répandues à très grande vitesse dans les milieux aquatiques et pour d'autres, dans les zones humides. Donc, elles sont présentes. Et un des défis, là encore, c'est de les récolter massivement, d'étudier l'impact qu'on a sur ces récoltes. On le fait avec des procédés écologiques assez pointus pour ne pas faire d'erreurs. Et puis après, eh bien, on les transforme sous forme de cette poudre qui va permettre d'aller capter ces métaux stratégiques dans l'eau. Donc en fait, le schéma est assez simple. Simplement, il sort un petit peu des sentiers battus. Il faut accepter dans un premier temps d'investir dans ces solutions écologiques, notamment de récoltes massives en milieu aquatique ou en zone humide.
Et sur des zones plus sèches, plus terrestres, est-ce que la facilité est la même ou...
Ça arrive. On le fait, donc vous avez évoqué les renouées exotiques. Alors on est... peut-être un petit peu plus en zone humide, mais ça reste dans le sol aussi. Donc on est justement en train d'étudier des techniques industrialisables pour qu'elles soient les moins coûteuses possibles, mais qu'elles répondent aussi à la réglementation du domaine, c'est-à-dire faire ces récoltes sans aucune maladresse, c'est-à-dire ne libérer aucun fragment qui serait source de reprise derrière. Donc voilà, il y a tout un cahier des charges qui existe, mais ces solutions fonctionnent déjà à grande échelle.
Et justement... Je voulais revenir plutôt sur... j'ai abordé la question des bactéries, notamment. Et est-ce que vous avez réussi à avoir une sorte de cocktail, parce qu'on sait qu'il y a des bactéries aussi qui se traitent ces métaux lourds, et voire les polluants. Est-ce que vous avez réussi à avoir, un cocktail d'un mélange de plantes avec des bactéries qui arrivent justement à traiter davantage et de collecter davantage de déchets?
Alors, le côté bactéries, nous a interpellés. Vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure quand vous parliez des mycorhizes qui facilitent la nutrition des espèces végétales. Et moi, je vous ai cité les légumineuses tout à l'heure, qui sont très utiles dans ces programmes de restauration écologique. Et il se trouve qu'on a découvert, notamment dans les Cévennes, une légumineuse qui est capable de faire de la phytoextraction. Et ça a été passionnant, c'est très rare. Donc, elle a un double rôle. Ce rôle d'extraction, elle a cité du zinc, ça reste un des très grands accumulateurs de zinc. Et en plus, c'est une légumineuse. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle vit en symbiose avec des bactéries du sol. Et ça nous a beaucoup perturbés, parce que cette légumineuse se développe sur un sol où la biodiversité du sol, même au niveau bactérien, est extrêmement réduite. Et elle avait réussi donc à se développer donc en vivant en symbiose avec une bactérie du sol. On s'est demandé quelle bactérie arrivait à survivre dans ces conditions. On n'a pas été déçus, c'était une bactérie inconnue, une nouvelle espèce bactérienne. Et après, on a essayé de comprendre pourquoi elle et pas une autre. Et on a vu des stratégies assez sidérantes. Cette bactérie arrivait à survivre dans ces sols très contaminés parce qu'elle tolérait la pollution, mais qu'elle avait trouvé une solution pour s'accaparer plus vite que les autres le peu de sucre qu'il y a dans le sol, le peu de glucose. Et c'est vital, parce que pour cette bactérie, pénétrer la légumineuse et vivre en symbiose avec la légumineuse lui demande beaucoup d'énergie. Pour transformer cet azote qui est dans l'air en engrais azoté, c'est la bactérie qui le fait pour la légumineuse. Et elle consomme une énergie faramineuse. Donc quand on est chimiste, réduire l'azote en ammonium nous fait réfléchir, ça demande beaucoup d'énergie. La bactérie le fait très bien, mais consomme beaucoup de glucose. Donc elle a trouvé une stratégie qui s'explique très bien au niveau de la chimie aussi, qui est absolument sidérante, où elle s'approprie 10 fois plus vite que toutes les autres le peu de glucose qu'il y a dans le sol. Voilà, et elle pénètre donc dans les racines de la légumineuse où elle fabrique cet engrais. Et en échange, la légumineuse lui donne le sucre dont elle a besoin, qu'elle produit par photosynthèse.
Mais elle prend pas le dessus parfois, justement, arriver à finir par épuiser
C'est une relation, à la différence des mycorhizes, la relation entre la légumineuse et cette bactérie est une relation qui est très spécifique. C'est-à-dire la légumineuse sait reconnaître cette bactérie du sol. Elle n'est pas une autre. Il y a un dialogue moléculaire très joli au niveau des racines et elle la sélectionne parce qu'elle l'a donc identifiée comme étant très efficace pour donc produire cet azote dont elle a tant besoin. Donc c'est une relation très spécifique.
Et justement, vous nous parlez de légumineux et de leur absorption. Sur les légumineux consommés habituellement par le grand public, y a-t-il une étude du risque qui peut être justement par cette absorption qui est recherchée dans ce contexte-là, mais pas nécessairement pour la consommation ?
Alors, je dirais non en première approche, parce qu'une légumineuse telle que celle que j'ai citée, qui extrait le zinc et qui vit dans des sols très pollués, c'est rare et c'est une adaptation locale. On la retrouve à d'autres endroits où elle n'accumule rien du tout. Donc c'est vraiment une adaptation locale, donc c'est très spécifique. Donc, et les plantes qui font de la phytoextraction restent des plantes rares et exceptionnelles. Donc voilà, il faut le savoir pour ne pas avoir cette inquiétude. En revanche, ça c'est un problème qui existe aussi. Si on cultive en fait des plantes racines sur des sols pollués, il ne faut pas non plus négliger la contamination. D'ailleurs, c'est le premier problème qu'on a rencontré quand on a travaillé dans les Cévennes pour la première fois, sur un ancien site minier, où une personne faisait des cultures maraîchères sur un site pollué et malheureusement a contaminé une partie de sa famille parce que donc il vivait avec ses cultures maraîchères dont les racines étaient polluées. Ça peut tout simplement être en surface, hein, ça suffit, sans pénétrer dans la plante. Donc il y a des précautions à prendre donc en termes de culture. Mais d'un point de vue général, ces plantes qui font de la phytoextraction sont suffisamment rares pour en fait, ne pas donc exposer quelqu'un je veux dire, d'un point de vue alimentaire. Après, c'est d'ailleurs très souvent, vous avez montré le tabouret bleu tout à l'heure en photo, c'est typique, cette plante qui extrait le zinc ne survit qu'en milieu pollué. C'est une mauvaise compétitrice. Sur un sol normal, elle se fait toujours dépasser par des plantes plus classiques. Mais sur un sol pollué, il n'y a plus cette compétition. Donc elle arrive à survivre grâce à la phytoextraction qu'elle fait si bien.
Et donc dans ces enjeux-là qui peuvent être quand même existants, même si assez faibles, y a-t-il une sensibilisation du public et plus largement des politiques et des acteurs locaux ?
Alors, en tant que chercheur, c'est quelque chose que l'on fait. C'est fait au niveau aussi de différentes structures de l'État, l'ADEME, l'INERIS, l'ARS, etc. C'est très important, effectivement. On fait cet effort de partager les résultats de recherche que l'on fait auprès de la population. Quand on va travailler dans un village où il y a un problème de pollution, on essaie de restaurer le sol ou de dépolluer l'eau, on partage toujours nos résultats. On essaie de les expliquer pour effectivement ne pas être naïf devant ces problèmes de pollution qui posent évidemment des problèmes de santé.
Une petite question supplémentaire. Est-ce que le génie génétique ne pourrait-il pas créer des plantes hyperaccumulatrices, justement ? Est-ce que vous avez une position par rapport aux OGM ?
Oui, j'ai une position qui est celle des écologues européens, et en particulier français. Donc on n'est pas très favorable à ce genre d'approche. Ce n'est pas la peine d'en arriver là. Si on se donne les moyens de mieux comprendre ces plantes et de leur stratégie d'adaptation, on peut les rendre très efficaces avec leur capacité naturelle d'adaptation. Il n'est pas nécessaire d'en venir là. Je pense qu'il est préférable d'acquérir des connaissances scientifiques plus approfondies de ces espèces qui sont déjà très bien adaptées.
Est-ce qu'il y a eu des recherches justement là-dessus sur tous ces OGM ou pas du...
Alors, en France, en Europe, on ne doit pas le faire. Oui, c'est communément admis. Je pense que personne n'a envie de tomber dans ces biais parce qu'on a des exemples qui sont contre-productifs. Je pense notamment à un collègue américain qui n'avait même pas été jusque-là, mais qui avait sélectionné, en fait... une plante très douée pour faire de la phytoextraction du nickel. D'ailleurs, il avait fait l'erreur fatale qu'on ne fait pas en Europe, venir chercher une plante en Turquie qui avait des capacités agronomiques assez extraordinaires pour accumuler le nickel, pour l'implanter dans l'état de l'Oregon. Cette plante est devenue envahissante. Il avait deux solutions. Soit elle n'avait aucune chance de s'acclimater, soit devenir envahissante. Elle est devenue envahissante. Donc finalement, il a créé un problème qui a été assez évocateur, qu'on connaît tous. En France, il n'y a pas de souci là-dessus, et donc personne n'a envie de faire ses maladresses. Le mieux, c'est de respecter la nature et ses capacités assez extraordinaires d'adaptation, d'essayer de les comprendre au mieux pour ne pas être maladroit.
Et justement, par rapport à tout ce qui est nature et pour pas de question de maladresse, on a vu justement que les métaux pouvaient remonter jusque dans les feuilles et choses comme ça. Est-ce qu'il n'arrive pas que des animaux soient en tout cas pollués et contaminés par...
Oui, alors ça fait partie des questions qui nous ont intéressés dès le début. Donc je peux en fait témoigner de deux expériences. Je peux revenir tout d'abord dans les Cévennes, parce que ma superbe légumineuse qui accumule le zinc a très belles inflorescences, une plante magnifique. Et alors, on n'a pas vu d'herbivores qui osaient venir sur ces sites miniers très pollués. En revanche, nous avons vu des abeilles venir en pleine floraison et ça nous a inquiétés. Parce qu'on est dans les Cévennes où il y a une tradition apicole importante. Et donc, la question était, est-ce que ces abeilles ne vont pas aller contaminer le miel qui est produit par les apiculteurs cévenols ? Donc, c'était une vraie question. Et on a eu la chance de discuter de tout ça et de rencontrer des apiculteurs assez courageux qui ont joué le jeu et qui ont exposé certains ruchers à proximité du site minier qu'on essayait de restaurer, où on développait cette légumineuse. Et on a étudié pendant 3 ans ce qui se passait. On a étudié tous les produits apicoles de ces ruchers pour voir s'il y avait contamination et si le miel était tout simplement consommable ou contaminé. Bon, on n'était pas très rassurés, pas plus d'ailleurs que les apiculteurs. Et puis finalement, ce qu'on n'avait pas imaginé, c'est que le miel était de très bonne qualité, meilleur que certains miels citadins. Ça nous a beaucoup interpellés. Et donc cette étude a été publiée, et elle est devenue après une véritable question scientifique. Mais comment ça s'est passé ? Parce qu'il y avait une introduction de certains métaux dans la ruche. Certains produits, dans certaines ruches, étaient contaminés, mais pas le miel. C'est devenu un énorme projet qui a été développé après, pour comprendre le travail des abeilles qui était réalisé à l'intérieur des ruchers. Mais là, donc, la bonne nouvelle, non attendue, c'est que le miel était tout à fait consommable. Problème similaire en Nouvelle-Calédonie, on est très actif sur ces sujets de restauration écologique. L'activité minière est très importante. Là, l'autre sujet qui nous faisait peur, c'est qu'il y a une espèce invasive sur place, encore une maladresse humaine, les cerfs. On a introduit les cerfs en Nouvelle-Calédonie. Ils sont devenus envahissants et ils ont une certaine appétence pour des arbres qu'on utilise beaucoup en restauration minière qui accumulent le manganèse. Et là, c'était la question fatale. Est-ce que les cerfs vont être contaminés par le manganèse en grignotant ses feuilles en même temps et donc contaminer la viande ? Et là, catastrophe très vite, on peut imaginer assez rapidement. Bon, la nature est quand même souvent extraordinaire parce qu'on s'est rendu compte en étudiant plus finement la situation en fait que les cerfs n'aimaient que les jeunes feuilles et les jeunes arbres qui n'avaient pas encore la capacité à accumuler le manganèse. Pour l'instant, nous en sommes là. Ça ne veut pas dire qu'on maîtrise tout, que le risque n'existe pas, mais sur les 2 exemples qu'on a essayé vraiment de travailler en profondeur, il n'y a pas eu de contamination.
Mais alors, Justement, vous nous avez parlé de ces exemples, également de l'exemple précédent sur la récupération d'une plante en Turquie. Quel est l'état du partage de connaissances entre les différents acteurs qui font de la recherche sur ce domaine?
Oui.
Et est-ce plutôt un partage réel et libre ou une séquestration, oui, des informations?
Non, c'est très libre parce que nous sommes chercheurs avant tout. Donc le meilleur moyen de communication de partage, eh bien, c'est la publication scientifique, ce que nous faisons tous classiquement. Je pense que voilà, c'est très clair, on partage tous les détails avec la précision scientifique et la rigueur de la science qui va avec. Et donc il y a une bonne connaissance de ce que font les uns et les autres. C'est très important effectivement pour progresser.
Et de fait, l'état de la collaboration internationale est plutôt réel. Enfin, chacun travaille un petit peu sur ses différents domaines ou il y a des collaborations internationales réelles sur ce sujet?
Alors, il y a des collaborations internationales, mais elles ne sont pas toujours si faciles que ça. Parce que selon les pays dans lesquels on travaille, eh bien, les espèces végétales sont très différentes. Déjà, il n'y a pas de point commun, par exemple, avec ce qu'on fait en Nouvelle-Calédonie, dans le Gard. Les espèces végétales ne sont pas du tout les mêmes, n'appartiennent pas aux mêmes familles, elles ne se comportent pas de la même façon. Donc, à chaque fois, on a un peu l'impression de redémarrer à zéro pour comprendre ces plantes qui se développent et qui s'adaptent à ces scénarios de pollution. Donc, les collaborations se font plutôt à l'interdisciplinarité. Par exemple, j'ai eu la chance, ne serait-ce que 10 jours, de recevoir un ancien chercheur qui a créé une ONG qui veut établir des liens entre santé humaine et restauration écologique. Et donc, il a choisi de me rapprocher d'experts dans le domaine de la santé pour voir l'impact positif qu'on peut avoir. Donc, c'est plutôt sur ces sujets qu'il y a une collaboration. Parce que finalement, sur les phytotechnologies de restauration, c'est très, très lié à l'endroit, au site sur lequel on travaille. J'irais même en France, en fait. Des plantes qui se développent dans les Cévennes, qui se sont adaptées à un site minier, n'ont rien à voir avec ce qui se produit, dans le nord de la France, où il y a aussi des activités métallurgiques polluantes. Donc c'est très particulier à chaque fois. Donc la collaboration, elle n'est pas forcément au niveau de la phytotechnologie, mais de tout ce qu'il y a autour.
Et de fait, malgré la spécificité des différents endroits, vous nous disiez que c'était un peu une impression de revenir à chaque fois de zéro.
Oui.
Est-ce qu'on réussit quand même à avoir une connaissance globale qui grandit réellement ou c'est complexe?
Alors, il y a deux grandes stratégies communes. Je sais que tout ce qu'on a fait dans les Cévennes nous a énormément aidé en Nouvelle-Calédonie. Mais après 15 ans de retour d'expérience en Nouvelle-Calédonie, on voit qu'il faut affiner les interprétations qu'on a réalisées sur le terrain. Ça reste un sujet de recherche dans le domaine de l'écologie scientifique qui nécessite du temps pour bien comprendre comment la nature réagit et s'adapte. Et chaque fois, les réponses sont différentes. Donc il ne faut pas vouloir aller trop vite, ça reste de la science, même si on arrive à développer ces technologies maintenant à très grande échelle. À l'échelle industrielle, on peut le dire. Il faut faire attention, parce qu'il y a toujours des questions de recherche qui sont associées. Il ne faut pas vouloir aller trop vite.
Très bien. Donc, j'avais une petite question par rapport justement à l'isolation des terres et par rapport,
oui,
à combien de cultures sont parfois nécessaires, combien de générations de plantes sont parfois nécessaires pour considérer qu'un site est totalement dépollué. Est-ce,
oui,
qu'il y a un moment de satisfaction? Est-ce qu'il y a une certaine durée ou...
Alors, oui, je peux donner un exemple concret dans les Cévennes, parce que l'ADEME l'a fait pour nous. Quand on a travaillé sur ce site minier hautement pollué, ça fait partie des sites les plus pollués en France, donc l'ADEME avait calculé qu'avec les deux plantes qui font de la phytoextraction du zinc, il faudrait 50 ans donc de ces cultures pour aller jusqu'à une dépollution totale. Et comme je l'ai dit, on ne fait pas de la monoculture, on s'interdit, c'est une erreur. Donc, en fait, on n'a pas travaillé dans le renouvellement continuel de ces plantes qui font de la phytoextraction. De toute façon, on n'a même pas eu le temps, parce qu'il s'est passé quelque chose d'assez génial pour nous. C'est qu'au bout de 2 ans où on a installé ces plantes qui font de la phytoextraction, se sont installées spontanément des plantes tolérantes, qui accumulent rien du tout, mais qui tolèrent la pollution. Et progressivement, des plantes de plus en plus communes ont reconquis le terrain et ont revégétalisé naturellement en fait, ces espaces pollués. Donc voilà, donc on n'est vraiment pas dans ce scénario de dépollution. C'est pas utile, je pense que ça serait une erreur. Ce qui compte, c'est de rétablir la biodiversité initiale.
Mais alors, justement, sur ces longues périodes de temps, comment prévoyez-vous ou gérez-vous l'évolution, que ce soit l'adaptation des plantes,
oui,
mais également des polluants qui peuvent être présents?
Alors, comme on a affaire à des polluants métalliques, il ne se passe pas grand-chose, je vais dire, dans le sol, mais ce sont des choses, en fait, qu'on suit. On a un exemple en Nouvelle-Calédonie de toute une famille de plantes qui sont assez extraordinaires et qui sont capables d'aller chercher des métaux qui ne sont pas solubles dans l'eau. Elles sont capables de les transformer. Elles font de la chimie au niveau des racines, elles les transforment, elles les rendent disponibles, solubles, et elles vont les transporter de façon très sélective pour aller les stocker dans les feuilles. Donc il y a toute une chimie qui se passe au niveau du sol, entre les racines, et là il n'y a pas de mycorhize dans ce cas-là, c'est une particularité, et les métaux qu'il y a dans le sol. Donc que l'élément métallique soit disponible ou pas, elles en font leur affaire en fait. Voilà. Et ça c'est des choses qu'il faut essayer de comprendre pour voir justement comment dans le temps ça va se passer.
Je voulais revenir sur votre éco-catalyse, notamment. Oui. Donc, est-ce que vous avez une petite idée à nous donner par rapport au rendement de ces plantes et à quel point est-ce que les industriels, après, sont intéressés aussi par ces rendements ?
Alors, on a choisi la catalyse, la valorisation par catalyse, parce que, puisque vous êtes chimiste, vous le savez, un catalyseur, on en utilise peu pour produire beaucoup de molécules. C'est la particularité du catalyseur. Et si on a bien travaillé, le catalyseur est même recyclable. C'est le modèle économique qu'on a choisi au départ. Et ça, c'était un petit peu la différence avec le collègue américain que j'évoquais tout à l'heure, qui, lui, voulait faire du nickel métal. Donc, il lui fallait des quantités astronomiques de plantes. Mais on n'est pas dans ce schéma. Donc, finalement, on se rend compte qu'on n'est pas dans la nécessité de développer des milliers d'hectares pour avoir une activité industrielle. Et la maturité industrielle existe déjà, puisque nous avons créé une société en fait, qui a développé et montré la faisabilité industrielle de la technologie. Donc ça, maintenant, on n'a plus d'état d'âme là-dessus. Et je l'ai dit assez rapidement en Nouvelle-Calédonie, ce sont même des arbres qui peuvent faire jusqu'à 10 mètres d'amplitude à l'âge adulte, qui génèrent des litières considérables, donc de feuilles hyper chargées en éléments métalliques. Donc en fait, récupérer des tonnes et des tonnes d'éléments métalliques avec ces feuilles, c'est tout à fait possible. C'est quelque chose qui est devenu très réaliste.
Et justement, est-ce qu'il n'y a pas un moment où vous arrivez à bout de cette quantité de catalyseurs, puisque si vous changez de terrain, vous avez peut-être des métaux différents?
Oui, alors j'aimerais bien vous dire oui, mais vu le nombre de surfaces polluées qui existent, malheureusement, je pense que les scénarios sont très importants. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'activité humaine polluante continue. Ça va très très vite de polluer, beaucoup moins de restaurer un sol. Donc le pas de temps n'est pas le même et on ne voit pas trop la limite en fait, de la situation. Voilà. On a aussi toutes ces eaux contaminées qu'on traite aussi par des phytotechnologies, les poudres végétales issues des plantes envahissantes, où là pareil, on découvre des scénarios de pollution quand on étudie ces plantes qui ne sont même pas connues. On n'est pas dans ce schéma d'épuisement des ressources minérales qu'on a dispersées partout, malheureusement, parce que les dégâts sont considérables.
Très bien. Est-ce qu'il y a des agriculteurs qui acceptent maintenant, pendant un certain temps, d'isoler leurs terres pour que vous puissiez mettre des plantes pour dépolluer, justement, quand il y a eu des produits phytosanitaires assez nocifs?
Si les terres sont identifiées comme étant polluées, il n'y a pas d'activité agricole. Ce n'est pas compatible. C'est bien trop dangereux. Bien. Donc, en général, la situation n'arrive pas. Sauf quand il y a, naturellement, en fait, des métaux dans le sol. Et ça, c'est ce qui nous est arrivé en Crète. Donc un territoire magnifique où on sait que l'histoire géologique du territoire, c'est d'ailleurs pareil en Nouvelle-Calédonie, a introduit du nickel. Donc là, c'est pas l'activité humaine qui l'a généré, c'est naturel. C'est embêtant parce que le nickel est très toxique, pas simplement pour nous, pour les plantes aussi. Et en Crète, il y a une culture traditionnelle de l'olive, vous le savez. Et on avait bien identifié des endroits où il y avait du nickel dans le sol, des rendements culture d'olive qui n'étaient pas très bons. Et on a identifié une plante qui accumulait le nickel. Donc l'idée était de transférer l'activité agricole, non pas dans la culture d'olive, qui pouvait poser problème, mais dans la culture de cette plante qui s'était adaptée naturellement à ces sols où il y avait beaucoup de nickel. C'est le schéma qui a été travaillé. Et on s'est fait rattraper, comme ça nous arrive souvent, pas par la science, parce que la technique fonctionnait bien, mais par des problèmes juridiques extrêmement compliqués. Et donc, ça n'a pas été jusqu'à son terme, mais c'était une idée.
Je comprends tout à fait.
Et alors, j'ai plein de questions qui me viennent, mais on va commencer au fur et à mesure. Mais tout d'abord, vous nous aviez justement parlé des problèmes juridiques. Quels sont les obstacles légaux qui peuvent être présents justement aujourd'hui?
Alors, il y en a de deux types. Là, la CRETE, je l'ai expliqué parce que la CRETE se protège beaucoup et on arrivait en tant que Français. La CRETE, c'est un petit peu le schéma de la Corse, c'est-à-dire c'est très protecteur. C'est une île qui a beaucoup souffert. Donc voilà, il y a une protection juridique à l'utilisation des terres qui ne nous a pas permis, nous, en tant que chercheurs, d'aller plus loin. En tous les cas, on n'avait pas les moyens de respecter les critères juridiques qui nous étaient imposés. C'est-à-dire déjà que les agriculteurs se fassent représenter par des avocats, et nous également. On n'avait pas le droit de discuter en direct. Donc ça, c'est très compliqué. Pour des chercheurs, c'est vraiment un cas de figure impossible. En Nouvelle-Calédonie, on n'est pas du tout dans ce contexte. Il y a un organisme local qui s'appelle la DIMINC, qui est la Direction de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie de Nouvelle-Calédonie, qui a établi des recommandations pour restaurer les sites miniers. Et les provinces calédoniennes qui se sont dotées d'un code minier. Donc, il y a une réglementation qui est très clairement affichée, qu'il faut respecter. Ça nous correspond bien. L'idée, c'est justement de ne pas faire de la monoculture. Par exemple, installer sur 3 hectares une plante qui accumulerait, par exemple, que le nickel. C'est de jouer le jeu de la diversité des espèces végétales qu'on introduit. Donc, c'est bien dans l'esprit de la restauration écologique. Donc, voilà, il y a un cahier des charges qui est clairement affiché, dans lequel on s'inscrit, tout simplement.
Et de par ces difficultés de passage à l'échelle du terrain, voire industriel, quels sont les tests préalables que vous pouvez faire justement en laboratoire avant oui. ces passages d'échelle?
Les tests préalables, c'est de comprendre le fonctionnement des espèces végétales qu'on a en face de nous. J'expliquais, ça c'est compliqué. Je vais vous donner un exemple. On imagine toujours que quand on installe une plante sur un sol qui est pauvre, riche en métaux toxiques, mais pauvre en nutriments, il faut ajouter de l'engrais, c'est le réflexe qu'on a, et rajouter un engrais, par exemple, phosphaté. Vous avez un petit peu évoqué le sujet tout à l'heure. Eh bien, on s'est rendu compte que les plantes qu'on installait, qui étaient très résistantes à la pollution et qui accumulent le manganèse, s'étaient adaptées à des sols carencés en phosphore et qu'il ne fallait absolument pas leur ajouter d'engrais phosphaté. Ça, c'est contre-intuitif. Dans les règles, on a l'impression qu'on va aider ces plantes à se développer si on ajoute un engrais phosphaté. Ben, c'est un cas précis où c'est une erreur. Et donc ça, ces maladresses, pour essayer d'avancer, on peut les éviter si on se donne le mal préalablement, en tant que chercheur, de comprendre comment vivent ces plantes qui se sont adaptées à ces scénarios de dégradation et de pollution. Pour moi, c'est le prérequis. Il ne faut pas foncer tête baissée. On n'est pas dans des techniques agronomiques où on va d'emblée essayer d'installer sur un hectare ces plantes. Il faut d'abord les comprendre le plus finement possible. Comprendre les mycorhizes associées, comprendre les bactéries associées quand il y en a. Donc comprendre tous ces scénarios de physiologie de ces espèces végétales. Et c'est après qu'on va commencer à travailler sur le terrain.
Et alors, justement, si on comprend assez le fonctionnement de ces plantes, et vous l'évoquiez tout à l'heure, malheureusement, il y a de fortes chances qu'on ait toujours de la marge pour dépolluer. Y aurait-il une optique où un jour on pourrait remplacer l'extraction minière complètement, ou en tout cas sur une bonne partie, par l'extraction
des plantes? Oui, alors ça, j'y crois pas. J'aimerais bien vous dire oui, mais j'y crois pas. Parce qu'il faudrait. Enfin, les métaux sont tellement présents dans la vie quotidienne. Les quantités nécessaires sont tellement importantes que je ne pense pas que ces techniques de phytoextraction suffisent. Voilà. La dépollution de l'eau, qui est beaucoup plus généraliste, qui permet d'aller chercher plus de métaux, non plus. Je pense qu'il faut être réaliste devant les quantités qui seraient nécessaires. Donc je n'y crois pas. En revanche, si on ne peut pas remplacer à 100% l'extraction minière, le fait de travailler avec des opérateurs miniers sur ces schémas de restauration est extrêmement intéressant. Parce que ça permet aussi de progresser dans les conditions d'extraction minière. Typiquement, en Nouvelle-Calédonie, ce qui est fait, et à d'autres endroits aussi, c'est qu'on n'a pas le droit de se lancer tête baissée dans l'extraction des minerais comme ça. Il faut déjà faire un inventaire écologique, en fait, de la parcelle avant exploitation. C'est extrêmement important. On peut découvrir des espèces à protéger. Ben, l'exploitation ne sera pas délivrée. Ça permet d'être moins impactant. Ça nous permet aussi d'imaginer dans quelle direction il faut aller quand on fait de la restauration écologique, parce qu'on connaît l'écosystème avant exploitation. Donc c'est très informatif et ça permet quand même de limiter l'impact en fait des exploitations minières. Je pense que l'idée pour nous, c'est de réduire l'intensité des activités minières et de les concevoir différemment.
Et j'ai une petite question par rapport, je voulais revenir aux agriculteurs tout à l'heure. Est-ce qu'il serait envisageable, par exemple, quand il y a eu on parlait des produits phytosanitaires et notamment de tout ce qui est produits phosphatés, il y a eu ces scandales avec le cadmium dans ces mines, est-ce qu'il serait possible d'imaginer donc que les agriculteurs, pour arriver à avoir le label du bio, puissent utiliser ces plantes donc, sous forme de jachère pendant une période de l'année pour pouvoir dépolluer les sols et ainsi arriver à des plantes plus...
Alors là, oui, c'est un cas très compliqué, c'est pareil, hein, j'aimerais bien à toute rigueur dire oui, ça serait formidable. D'ailleurs, on a identifié le tabouret bleu que vous avez montré, accumule le cadmium en quantité non négligeable. Après, attention, pour respecter des critères fondamentaux de biodiversité, d'écologie scientifique, quand on a identifié une plante comme le tabouret bleu qui est capable d'accumuler le cadmium, on ne la cultive que dans son habitat naturel. On s'interdit d'aller l'implanter dans un autre contexte, un autre endroit où le climat, la composition du sol est radicalement différente. Donc voilà, c'est pas aussi généraliste que ça, malheureusement. C'est pas une solution miracle qu'on va pouvoir transposer. Ce qu'il faut voir, est-ce qu'on fait systématiquement, quand effectivement on a introduit encore une fois maladroitement ce cadmium, va les engrais phosphatés, c'est d'étudier comment répond la nature, pour identifier s'il n'y a pas des espèces qui ont commencé à s'adapter et qui vont peut-être accumuler déjà un petit peu le cadmium. Ce sont des choses qu'il faut absolument faire.
Et alors, d'un point de vue plus politique, comment gérez-vous les changements de réglementation ou de gouvernance qui peuvent se faire sur des périodes justement qui nous intéressent, donc plusieurs dizaines d'années, qui peuvent aussi bien faire l'interdiction de certains produits ou l'autorisation de d'autres produits ou de certaines techniques?
En fait, quand je vois l'exemple des engrais phosphatés, ce n'était pas une découverte, le fait que malheureusement, il y avait du cadmium en présence des phosphates. Donc la question qu'on se pose quand on est chercheur et qu'on s'intéresse à ces sujets, mais comment a-t-on pu utiliser avec cette abondance et cette incrédulité des engrais pour être cadmium? C'est incompréhensible. Ce sont des erreurs et des maladresses qu'on paye très cher derrière, dont la gestion est extrêmement difficile. Donc pour moi, ce n'est pas acceptable.
C'est quelque chose qui est absolument un peu révolutionnaire dans un certain sens. Est-ce que nous, à notre échelle, nous aurions un moyen, alors moi en dehors du fait que je sois chimiste, mais est-ce qu'il y aurait un moyen de promouvoir en fait, tout ce qui se passe justement pour qu'il y ait dans l'opinion publique, parce que c'est la fois, comme je le disais au début, la chimie est associée donc, au mal et à la pollution. Est-ce qu'il y aurait un moyen donc, de promouvoir ces biotechnologies finalement pour qu'elles soient acceptées du grand public?
Oui, mais je crois qu'il faut partager les expériences réussie. Je pense que c'est important. Si on montre que la chimie, contrairement effectivement à ce qu'on entend, n'a pas que des activités polluantes, mais peut à l'inverse aider énormément à comprendre toutes ces phytotechnologies, dans le cas de la bactérie qui vit avec la légumineuse, on est capable de la cultiver parce qu'on est chimiste et qu'on a compris comment elle s'adaptait, elle survivait. Donc la chimie du vivant a un rôle fondamental pour bien comprendre le fonctionnement des micro-organismes et des espèces végétales associées. Donc c'est quelque chose qui est très important. Et plus on partage ces expériences positives et réussies, plus je pense on peut montrer le rôle positif que peut avoir la chimie, qui a donc cette vocation à travailler à l'interdisciplinarité avec par exemple l'écologie scientifique, où l'agroécologie, qui est tout aussi importante, pour montrer qu'il y a plein d'autres solutions. On a évoqué rapidement les mycorhizes, même si ce n'est pas mon domaine de spécialité, on sait très bien que ça va favoriser l'extraction du phosphate pour nourrir une plante. Donc voilà, réfléchissons à des techniques naturelles. La nature a des tas de solutions qu'on ignore parfois, qui vont permettre d'être moins maladroit que faire et introduire des engrais phosphatés pour être cadmium.
Et alors, avant qu'on passe, je pense, aux questions du public, une dernière question un peu plus sur le futur. Et tout d'abord, quelles seraient les limites en fait, aujourd'hui qu'on aurait et qui seraient intéressantes pour développer des pistes de recherche dans les 5, 10, 20 prochaines années
qui arriveraient ? Il y a un courant qui se développe beaucoup en ce moment, que je trouve très intéressant, qui s'appelle les solutions fondées sur la nature. C'est essayer de trouver des solutions qui s'appuie sur le fonctionnement de la nature, donc qui nécessite d'abord de le comprendre, et puis de s'en inspirer de façon très scrupuleuse pour résoudre tous ces problèmes de pollution, de dégradation, qui sont des solutions extrêmement pertinentes parce qu'elles résultent sur l'adaptation de la nature au stress auquel on l'a soumise. Donc ce sont des adaptations naturelles. Voilà, les procédés naturels et tous les phénomènes évolutifs ont sélectionné ce qu'il y a de mieux. C'est très opérationnel. Ce sont généralement des solutions qui sont conduites sur le long terme, donc qui sont extrêmement intéressantes, mais qui ne sont pas non plus des solutions naïves et qui associent, dans la définition officielle aussi, cette rentabilité, cette valorisation économique, mais non maladroite et non naïve elle aussi. Donc toujours réfléchie, conçue sur le long terme pour soutenir ces solutions naturelles. Donc c'est un courant qui se développe bien dans le niveau de la, au niveau de la recherche, en France, en Europe, qui a adopté une définition officielle sur le domaine, qui mérite d'être soutenue, amplifiée, et qui est très intéressante parce qu'il y a un programme de recherche en France qui n'est pas qu'un programme de chercheurs, qui associe beaucoup de collectivités. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que c'est un partage de connaissances entre des gens qui sont sur le terrain, qui ont la gestion de sites, de zones territoriales et des chercheurs. Donc c'est une belle expérience qui répond aussi à votre question tout à l'heure. Partager les connaissances aussi avec les gens qui sont sur le terrain.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.